Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour une heure en Palestine, animée aujourd'hui par le collectif Marseille-Gaza-Palestine, qui a le plaisir d'accueillir le porte-parole de l'Union juive française pour la paix, Pierre Sambou. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, on commence tout de suite par les points forts de la semaine. Le jeudi 8, au Cercle de l'Harmonie à Aubagne. À l'initiative du comité Ballon Rouge et à partir de 19h, Bassam Aboud, enseignant à Gaza, interviendra sur le thème « Les enfants de Gaza, survivre, résister sous les bombes, les défis de l'éducation dans la bande de Gaza ». Et puis samedi 10 juin à 17h, à Marseille, une conférence de Salah Amouri et Elsa Lefort, animée par le journaliste de l'Humanité Dimanche, Pierre Barbancé. Cette conférence est portée par le collectif Palestine en résistance, en particulier Marseille-Gaza-Palestine, Palestine 13, BDS Provence, l'Union juive française pour la paix, le collectif Solidarité Palestine Ouest-Étendebert, la Ligue des droits de l'homme Marseille, mais aussi la CGT qui accueille la conférence, l'ANC, la jeunesse communiste, la France insoumise, Europe écologie des Verts, et elle a le soutien d'Amnesty International, de l'Antifa Social Club, de la gauche écologique et sociale et de du NPA. Voilà, et d'autres structures qui petit à petit rejoignent et appellent à cette conférence. Alors, une petite pause pour faire peut-être un peu de vocabulaire, avec des mots que l'on veut nous confisquer et que nous entendons conserver et utiliser. Par exemple, l'apartheid. Alors, on nous dit souvent l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud, c'est les Blancs et les Noirs. Ben non, justement, c'est pas les Blancs et les Noirs, c'est pas l'Afrique du Sud uniquement. Par crime d'apartheid, la Cour pénale internationale entend des actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l'intention de maintenir ce régime. Alors, par groupe racial, tout ça, on va chercher dans le dictionnaire.
Traduction un peu abusive, moi, je préfère dire groupe humain, parce que race, en anglais, n'a aucune connotation biologique et les gens, immédiatement, se sont dit « Oulala, groupe racial, vous voulez dire biologie ?» Pas du tout, bien sûr.
Merci. Un autre terme, mais peut-être que toi tu pourras nous en parler, c'est le terme de déporté ou de déportation.
Je vais dire un mot sur l'apartheid. Mm-hmm. D'abord, le rapport d'Amnesty a confirmé ce que bien des associations des droits de l'homme palestiniennes comme Al-Haq, internationales comme le rapport de Richard Falk et Virginia Télé, comme le tribunal Russell sur la Palestine, ou israéliennes comme B'Tselem, avaient dit de longue date. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que le rapport d'Amnesty dit bien qu'il y a apartheid, pas seulement dans les territoires occupés, mais ça concerne aussi les Palestiniens 48, ceux qui ont la citoyenneté israélienne. Et puis je dirais un mot, ceux qui doutent un tout petit peu du mot apartheid peuvent passer un quart d'heure à Hébron et n'ont plus besoin d'un conférencier pour comprendre ce mot-là.
Alors, le second terme qui nous interpelle et que l'on veut, alors là, qui rend certains... On va dire très excité, c'est le terme de déporté ou de déportation. Ce terme n'a pas été inventé récemment, c'est un terme qui, au XVe siècle déjà, était utilisé au sens de bannissement. C'est un terme qui est emprunté au latin déportatio, charroi ou transport, en latin classique, et déportation exil en bas-latin juridique. En droit pénal, c'est anciennement une peine perpétuelle, afflictive et infamante, qui consistait en une résidence forcée dans un lieu déterminé en dehors du territoire continental. C'est aussi le transfert de certaines catégories de population d'un pays hors de leur patrie, et c'est enfin transfert et internement dans un camp de concentration ou d'extermination plus récemment. Et donc, Pierre, le terme de déportation, de déporté, c'est...
Je suis moi-même fils de déporté. Mon père, qui était dans le campement de Chien, a été déporté à Brunwald. Mais je veux dire qu'on parle de la déportation de 11 000 prisonniers de la commune en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des tas de déportations bien avant. En plus, les sionistes se sont indignés qu'on utilise ce mot-là. Pour ça, la Hongrie, beaucoup n'ont aucun rapport dans leur histoire familiale avec la déportation, mais ils confondent sciemment avec l'extermination. Et déportation ne veut pas dire extermination. Et d'ailleurs, dans les camps nazis, il y a des camps de déportation, Grunwald en était un, 50 000 morts sur 400 000 personnes qui y sont passées, et des camps d'extermination comme Auschwitz, Treblinka ou Majdanek. Et ce n'est évidemment pas la même chose. En ce qui concerne, ça l'a montré très clairement, quand on est né à Jérusalem, quand on y a grandi, quand on y a vécu, quand on y a milité, quand on y a toutes ces relations personnelles et affectives, et qu'on est banni à vie de l'endroit où on a vécu avec la résiliation de quelque chose que les Israéliens utilisent, qui est le permis de résidence de Jérusalem-Est, qu'ils utilisent pour vider la ville de sa population palestinienne, c'est bien évidemment une déportation, il n'y a aucun doute sur l'utilisation du mot.
Merci Pierre, et on va revenir sur des témoignages qui nous sont parvenus, des témoignages récents. Par exemple, ceux de l'association Breaking Silence, qui est une association d'anciens soldats israéliens qui témoignent aujourd'hui de ce qu'ils ont vu, vécu et fait dans les territoires palestiniens occupés. Par exemple, le 3 juin, un communiqué qui dit « Hier, le bloc anti-occupation s'est présenté dans le centre de Tel Aviv pour marquer le 50e anniversaire de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Israéliens et Palestiniens ont marché ensemble de la place d'Izengoff, rappelant aux manifestants qu'il n'y a pas de démocratie au milieu de l'occupation militaire en cours de millions de personnes. Notre directrice de l'éducation, Tal Sagi, a pris la parole lors de la manifestation dans son discours. Elle a dit « Je suis restée silencieuse sur l'horreur de l'occupation pendant longtemps. J'ai pris une grande part à la maintenir, simplement parce que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Un système puissant a fonctionné sur moi pour que je ne sache pas. Le système a rendu des millions de Palestiniens invisibles afin de cacher à mes yeux le plus long projet d'Israël, le projet de contrôle militaire sur notre nation. La liberté de millions de personnes n'est pas une question de timing, c'est urgent. » Alors Pierre, que dire de cette déclaration
La réalité, la férocité de l'occupation entraîne une radicalisation assez certaine de l'opposition à l'intérieur d'Israël, à l'occupation, à la colonisation, à l'apartheid. Breaking the Silence, au tout début, n'était pas une association antisioniste. Ce sont des soldats qui se sont révoltés sur des questions morales. Et justement, ça dit aussi que même dans les situations les plus tragiques, l'être humain a la faculté de choix. Il a le choix de rester un être humain ou de se salir et de devenir un salaud. Et eux, face aux crimes absolument évidents, notamment pendant les premiers bombardements massifs de Gaza au moment de plan durci, ils ont dit tout leur dégoût et tout leur refus de servir cette armée-là. Je comparerai aussi à Yonatan Shapira, qui était un pilote qui était un excellent Israélien, qui conduisait son hélicoptère, et puis le jour où on lui a demandé de bombarder Gaza, il a dit non, et il est devenu un opposant à Réfusnik, et il était dans la flottille, la dernière flottille pour Gaza, où il a été arrêté et emprisonné. Donc, ce qui est important dans Breaking the Silence, c'est qu'il reste encore, même si c'est une minorité, même si elle le dit très bien dans son intervention, l'éducation israélienne fait que la plupart des gens ont perdu complètement le sens moral, mais il en reste un certain nombre qui le gardent et qui deviennent des opposants. Il y a aussi le fait qu'il y ait eu une manifestation regroupant juifs israéliens et palestiniens. Dans les manifestations monstres qui ont eu lieu contre Netanyahou, au tout début, parler de la Palestine devenait quasi impossible. Et puis petit à petit, les drapeaux palestiniens et le morceau de manifestation occupé par les opposants à la guerre, à l'occupation et à l'apartheid est apparu. Voilà, il faut absolument continuer comme ça.
Alors, je voulais t'interroger aussi sur cette autre information, sur une loi qui a été retardée sous pression, on ne sait pas trop, on imagine que c'est sous pression de la communauté internationale, ou bien pour Netanyahou, ce n'était pas le bon moment. Elle a été introduite à la Knesset et elle visait à taxer la société civile israélienne qui reçoit des financements de l'étranger. Et Breaking Silence nous dit l'objectif, c'était faire taire toutes les lois qui s'expriment contre la politique d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. La portée de la loi telle que proposée pourrait même nuire aux organes civils qui soutiennent des groupes comme la communauté LGBTQIA+, et les survivants de l'Holocauste. Mais ceux qui ont proposé la loi sont prêts à sacrifier les autres tant qu'ils peuvent continuer leur projet messianique central.
Un désir qui s'est fait élire dans le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, à savoir le voyou Itamar Ben-Gvir, Il avait bien dit qu'il ne s'en prendrait pas seulement aux Palestiniens, mais aussi aux Juifs déloyaux. Et ça explique aussi l'importance des manifestations qui ont lieu en Israël, c'est qu'il y en a un certain nombre qui se sont visés. Alors bien sûr, ce sont les associations israéliennes les plus radicales qui vont être visées, B'Tselem, Breaking the Silence, auparavant on dit Colonizer, mais ils ne sont plus beaucoup en Israël, Sorot et tout. Et il est certain que tout ce qui peut être fait pour les baïonnés va être utilisé. C'est le pendant de ce qui a été utilisé contre les ONG palestiniennes. Rappelons que Benny Gantz, qui est un opposant à Netanyahou, ce qui ne l'empêche pas d'être fasciste, Benny Gantz avait déclaré terroriste six grandes associations palestiniennes et pas des moindres, puisqu'on trouvait les associations qui s'occupent des droits de l'homme, qui s'occupent des femmes, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des prisonniers, qui s'occupent des paysans, c'est-à-dire l'entièreté de la société civile palestinienne dont le gouvernement israélien voudrait interdire toute espèce de financement de ces associations.
Là, je voudrais continuer par justement ce qui s'est passé autour du village de Bourka. C'était vers le 24 mai. Et là, est utilisé par Breaking the Silence, le terme de pogrom. Ce sont les colons de l'avant-poste illégal Omesh qui ont attaqué le village de Bourka sur le terre volée par la colonie. Des maisons ont été incendiées, des coups de feu ont été tirés, il y a des blessés selon les rapports qui ont été faits. Tout cela en réponse à une tournée organisée plus tôt aujourd'hui par Pisnau et Yashin, avec des envoyés diplomatiques européens dans la zone d'avant-poste. Alors le terme d'avant-poste d'abord et le terme de pogrom, ça évoque quoi pour toi
Alors d'abord, avant-poste, comme on a dit colonie légale, il n'y a pas de colonie légale, il faut comprendre que d'après le droit international, l'entièreté de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, qui est toujours un territoire occupé, et de Jérusalem-Est, est illégal. Simplement, cet avant-poste, à un moment donné, pour des raisons de rapport de force, il a été abandonné par les colons. Et puis, avec l'extrême droite messianique qui est arrivée au pouvoir, ils reviennent. Mais qu'on soit bien clair, il n'y a pas de colonie légale. Toutes les colonies qui sont en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont sur des terres volées aux Palestiniens. La colonie Omesh ne fait pas exception au reste. La seule exception, c'est qu'à un moment donné, les Israéliens avaient renoncé. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts absolument à tout. Ça rappelle le discours de Sharon qui disait « Courez, occupez, tout ce que vous occuperez sera à nous ». Et c'est exactement ça qui est aujourd'hui en route. Je pense au village de Bourka parce que nos camarades de Martigues sont allés là-bas, ont établi des rapports très, très proches avec les villageois de Bourka. Et donc, eux-mêmes pourraient donner des témoignages en direct de ce que les villageois de Bourka disent à propos de cette attaque. Alors maintenant, le mot pogrom. Mes deux grands-mères maternelles, Branana Magazanik et Mania Shrira, ont été des survivants du pogrom de Kishinev, qui est un des pogroms les plus meurtriers, 49 morts en 1903. Ma grand-mère, la seule que j'ai connue, parce que l'autre a disparu, je ne l'ai jamais connue, m'a raconté comment elle était restée des jours dans les caves pour éviter les pogromistes. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? C'est un mot russe. Même si des massacres spécifiques contre les Juifs ont eu lieu dans le monde chrétien bien avant que la politique officielle des pogroms commence en Russie, c'est un mot russe qui désigne une attaque conjointe de civils, d'une juif en particulier, contre menée à la fois par la police, l'armée, par les forces armées, et par des milices qui ont été excitées à commettre les massacres ou les exactions. En Russie, le pogrom est devenu une politique d'État à partir de 1880. Il y a l'assassinat du tsar Alexandre Ier, il y a la montée des forces révolutionnaires, et pour essayer de conjurer la révolution, la politique tsariste va être de fomenter des pogroms un petit peu partout. Le résultat de ces pogroms sera d'une part le début d'une émigration massive des Juifs de l'Empire russe vers l'Ouest, et particulièrement vers les États-Unis, et la création par les Juifs eux-mêmes de milices d'autodéfense. Il y aura un parti ouvrier juif, le Bund, qui créera des milices d'autodéfense. Pratiquement, le pogrom de Kishinev est un des derniers. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouara et qu'est-ce qui s'est passé à Burka? On a des colons armés, puisqu'ils sont les Gallois armés, qui arrivent, qui détruisent des voitures, qui brûlent des maisons, qui attaquent la population. À Ouara, il y a eu un mort, qui font des ravages sur toutes les propriétés palestiniennes. L'armée est là, elle les regarde, et son seul rôle, c'est si jamais il y a une volonté de riposte des villageois, ils ne peuvent pas parce que l'armée va protéger les pogromistes. Donc si ça ne s'appelle pas un pogrom, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais nous, à l'Union juive française pour la paix, nous avions fait un communiqué sur Ouara, et on avait appelé ça le pogrom de Ouara en tant que juif. C'est quoi Ouara, c'est de quoi on parle.
C'est d'ailleurs le terme utilisé donc par Breaking the Silence, et j'ajoute...
Tous les juifs utilisent ce terme-là, bien sûr.
Aujourd'hui encore, il a été rapporté dans Arès qu'environ 80 soldats sont stationnés à Omesh afin de garder 30 colons. Ils étaient où à Burka, demandez-vous.
Alors ça, sur l'histoire des avant-postes, c'est une politique délibérée depuis 1967. Mais ça a toujours été, j'ai envie de dire, dans l'histoire du sionisme, comme dans un commissariat où il y a les bons et les méchants. Donc il y a les méchants ou les pas tout à fait bons, ils font les exactions, mais l'armée arrive immédiatement pour les protéger, pour entériner le fait accompli. Un des plus grands, là on ne peut pas dire pogrom, c'est un massacre organisé derrière Yassine en avril 1948. Ce sont les milices d'extrême droite de l'Irgun et du Lehi qui vont massacrer 250 villageois, mais immédiatement après, c'est l'armée régulière à Adana qui occupe le village. C'est-à-dire que l'armée a toujours fait vis-à-vis de l'extrême droite raciste et de l'extrême droite violente la politique du... on entérine le fait, c'est nous qui prenons le contrôle. Et ce qui se passe là-bas, ça s'est passé sur toute la colonisation. Comment la colonisation elle a commencé? Il y avait une autorisation de coloniser qui avait été donnée par Gallalone dès 1967. Alors, il y a quelques colonies qui ont été décidées par le gouvernement. Il y en a d'autres qui n'ont pas été décidées par le gouvernement. Par exemple, la colonisation du centre d'Hébron. Mais qu'est-ce qu'immédiatement l'armée a fait? Elle est arrivée pour protéger les colons. Pire, même Yitzhak Rabin, après le massacre de 29 pèlerins à l'intérieur de la mosquée d'Hébron, la mosquée d'Abraham à Hébron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2000 soldats, pas pour virer les colons, pour les protéger. C'est-à-dire que ça a été de tout temps la politique israélienne vis-à-vis des groupes violents. Ils font l'avant-travail et après on les protège et on entérine le fait accompli.
Et enfin, pour terminer sur cette rubrique des informations qui nous sont arrivées de Palestine occupé, c'est ce communiqué aussi qui parle de ce qui s'est passé à Ain Samia. Aujourd'hui, environ 200 membres d'Ain Samia, village bédouin en Cisjordanie, ont fait leur valise pour partir. Pourquoi? Ils ont décidé de ne plus pouvoir vivre sous la menace constante de la violence de l'État et des colons. Je ne peux pas vivre ici, les colons viennent jeter des pierres de ma aide pour une mutuelle et un résident au journal à Arès. L'histoire du déplacement d'Ain Samia se répète partout dans les territoires palestiniens occupés en 67. Cela se passe à Masafer El Yatta, dont une partie est maintenant à l'intérieur de la zone de tir 918. C'est même déjà arrivé dans cette même communauté qui fuit actuellement leur maison, qui n'y vit qu'après que les forces de défense israéliennes, c'est l'acronyme de Tzahal, ça donne Tzahal en hébreu, les aient forcés à quitter leur résidence. Alors, la Nakba, la catastrophe, le nettoyage ethnique de la Palestine, Pierre, se poursuit, s'amplifie, et Insania, Sharjah, Silwan, Jabal el-Mukabel. Et peut-être l'exemple le plus symptomatique, c'est Massafer El Yatta. Tu nous en parles?
Je vais parler d'abord de Massafer El Yatta. D'abord, en plus, soi-disant que c'était pour faire un stand de tir dans le village, et il y a immédiatement des colonies qui se sont établies là-bas. C'est bizarre. L'armée ne tire pas, elle ne voulait tirer et s'entraîner que quand il y avait des Palestiniens. Massafer El Yatta, d'abord, je voulais dire par rapport aux manifestations qui se passent en Israël, les manifestants demandent la préservation de la Cour suprême. Mais ils demandent la préservation de la Cour suprême parce qu'ils veulent que Netanyahou soit emprisonné, en tout cas jugé pour toutes les prévarications et vols qu'il a commis. Mais la même Cour suprême avait légalisé l'expulsion des villageois de Massafer El Yatta, là, ils n'ont rien dit, et elle avait légalisé un usage raisonné, je mets 150 guillemets, de la torture, et là aussi, ils n'ont rien dit. Il se trouve que Massafer El Yatta, c'est au sud d'Hébron. J'ai sillonné cette zone-là à Noël 2015, avec un anticolonialiste israélien extraordinaire qui est mort depuis, qui était Ezra Naoui, qui était un Israélien d'origine irakienne, donc il parlait parfaitement arabe, il était extrêmement respecté par les Bédouins, et il sillonnait sans arrêt les villages Bédouins. Il a été victime, peu après, début 2016, d'une provocation, c'est-à-dire qu'il a dit des choses contre un Bédouin collabo qui avait vendu ses terres aux Israéliens, et c'était une provocation, il était enregistré, il a été en prison. Puis il est mort depuis d'un cancer. Toute cette région au sud d'Hébron, très très rapidement, alors que Hébron s'était encore arrosé, j'étais à Hébron sous la neige même, et très rapidement, dès qu'on va au sud, c'est le début du désert, ou en tout cas d'une espèce de steppe extrêmement aride, où la population est majoritairement bédouine. Il faut dire quelque chose sur la politique que les Israéliens ont utilisée vis-à-vis des Bédouins. L'idée, elle a toujours été de séparer, de diviser, et ils ont joué, dès 1948, les sédentaires contre les nomades, mais le colonialisme français avait fait exactement la même chose dans les zones arides d'Algérie. Et les Bédouins, au début, on a dit, on n'a rien contre vous, vous pouvez continuer à bédouiner en paix, vous avez même le droit de venir dans l'armée et tout. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avait besoin de leur terre, on a commencé par les exproprier. Donc il y a à l'intérieur même d'Israël un nettoyage ethnique en cours qui dure maintenant depuis une quinzaine d'années, notamment dans le département d'Er Sheva, où 160 000 Bédouins vivent dans des villages non reconnus, sans eau, sans électricité, sans route, sans école. Ils sont pourtant citoyens israéliens. Et pour les Bédouins du sud de la Cisjordanie, c'est l'expulsion parce qu'évidemment leurs terres sont importantes. Je me souviens d'un petit village bédouin qui jouxait la colonie Carmel, au sud d'Hébron. Et c'est ahurissant, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de clôture, on est dans des zones désertiques, et donc très régulièrement, les colons de Carmel attaquent les troupeaux de moutons, détruisent toutes les infrastructures que les Bédouins peuvent construire, les écoles, les centres sociaux. Donc on est complètement dans une zone de non-droit. Massafar Yatta, le fait qu'on vit au-dessus tout le monde, et malgré des manifestations complètement massives, on n'a pas pu empêcher l'expulsion de 1200 personnes, c'est quelque chose de dramatique, la responsabilité européenne est énorme, parce qu'ils ont financé énormément d'infrastructures, notamment pour les populations bédouines, un petit peu partout en Cisjordanie. Ils laissent l'armée israélienne et les colons détruire tout ça. C'est véritablement quelque chose de tragique. Tu m'avais posé une autre question, qui était, il y avait Massafar Yatta, il y avait...
C'était sur le village d'Aïn Samia.
C'est actuellement la même chose qu'ils subissent. Je voulais qu'on parle de la question bédouine qui est importante. Hein, je veux dire, par exemple, à Gaza, vous avez un assez grand nombre de réfugiés qui sont des bédouins, et ceux qui n'ont pas obtenu la carte de l'UNRWA, ce sont des bédouins. Et à Gaza, par exemple, ce sont les bédouins de toute la région nord du désert du Negev qui ont été expulsés par l'aviation en 1948. Il y avait véritablement une politique contre eux.
Alors, moi, j'ai deux souvenirs qui me reviennent, à mesure que tu parlais, Pierre. C'est d'abord à propos de Ezra, cet Irakien juif. Et j'ai le souvenir d'avoir rencontré à un certain moment les femmes en noir qui manifestaient à Jérusalem sur la place de Paris. Et Ezra venait chaque semaine leur offrir des fleurs. Et c'était très émouvant, des femmes qui étaient insultées et lui arrivaient et leur distribuaient des fleurs à chacune. Et la deuxième chose, c'est que lors de mon premier séjour en Palestine occupée, nous étions allés dans un kibbutz qui venait de recevoir le prix de la coexistence, parce que c'était le seul kibbutz où des religieux et des non-religieux israéliens juifs pouvaient vivre ensemble. C'était à l'entrée du désert du Negev. Et dès 5h ou 4h du matin, les jets d'eau rentraient à la nation pour avoir une très belle pelouse digne de Beverly. Et puis ensuite, dans la journée, nous étions allés voir les Bédouins qui, eux, n'avaient pas d'eau et n'avaient pas le droit de construire des puits plus profonds et donc vivaient avec très très peu d'eau pour survivre dans des baraquements en tôle parce qu'ils n'avaient pas le droit non plus de construire ou de consolider leurs baraquements. Et c'est ce jour-là où j'ai vu que l'apartheid n'était pas uniquement dans les territoires palestiniens occupés, c'était mon premier séjour, mais qui s'appliquait aussi aux populations supposées être israéliennes. Qu'il y avait déjà de... Voilà, alors on va faire une petite pause musicale tout de suite et on reprend ensuite, toujours sur Radio Galère, avec une heure en Palestine. revient pour le restant de cette heure, on revient en Palestine. Et je rappelle alors l'événement particulier cette fin de semaine, samedi 10 à 17h, dans les locaux de l'Union départementale CGT au boulevard Charny-Delec. Et bien la conférence Quelle justice pour la Palestine, quelle justice pour le peuple palestinien, avec l'intervention de Salah Amouri et d'Elsa Alfort, animée par Pierre Parvancé, journaliste. Et avec une immense tristesse et aussi quand même de la colère, je voulais vous parler du bébé Mohamed Tamimi, assassiné par l'armée israélienne. À travers, je vous en parle non pas à travers les mots, mais à travers les mots de l'association des États-Unis d'Amérique, Jewish Voice for Peace. La semaine dernière, les forces israéliennes ont tiré à balles réelles sur une famille palestinienne. Aujourd'hui, Mohamed est mort de ses blessures, tandis que son père reste dans un état critique. Mohamed Tamimi, 2 ans, et son père, Aïssam Tamimi, étaient assis dans une voiture garée devant chez eux à Nabi Salé. L'armée israélienne les a grièvement blessés, y compris en tirant sur Mohamed dans la tête. Mohamed est le 27e enfant tué par l'armée israélienne dans la première moitié de 2023. Et son meurtrier ne sera probablement pas tenu responsable parce que l'armée israélienne l'est rarement. Cette horrible et cruelle tragédie est quotidienne en Palestine, où les soldats israéliens assassinent les Palestiniens avec la protection et le soutien de l'État israélien. Ayala Bouktesh, de Défense for Children International Palestine, explique « Les meurtres illégaux d'enfants palestiniens sont devenus la norme, alors que les forces israéliennes sont de plus en plus habilitées à utiliser la force mortelle intentionnellement dans des situations qui ne sont pas justifiées. C'est un crime de guerre sans conséquence. Combien d'autres enfants palestiniens l'armée israélienne tuera-t-elle avant que les États-Unis ne cessent de la financer ? Avant que les consommateurs boycottent les produits israéliens, avant que les institutions retirent leurs investissements israéliens et avant que les entreprises cessent de faire des affaires avec Israël. Ajoutons que la France, la droite, mais aussi une gauche qui se prend encore à gauche, ne cautionne les crimes commis par des commentaires méprisables qui s'indignent, déplorent, condamnent, sans réagir. Que l'Europe ne cesse de regarder d'un œil veule les destructions du bien financé par nos impôts, les corps d'enfants ou de vieillards malmenés, opprimés, assassinés, tout en collaborant avec l'armée coloniale. C'est effectivement depuis 2000, environ 2260 enfants palestiniens qui ont été tués par la force d'occupation israélienne. Et depuis 2011, ce sont 78 enfants de Gaza, malades, qui sont morts parce que les autorités d'occupation israélienne ont refusé ou retardé de leur permettre de sortir de la bande de Gaza pour être soignés dans les hôpitaux palestiniens ou israéliens, évidemment, contre paiement. Donc, les meurtres d'enfants, ça commence à être insupportable. Ce qui est en plus insupportable, Pierre, c'est ce besoin des soutiens d'Israël dans notre pays de couvrir ces crimes. Et ce qui est encore plus insupportable, peut-être, c'est à quel point ceux qui se croient encore de gauche cautionne tous ces crimes, et ça fait extrêmement mal. Je voudrais juste entendre là-dessus.
Déjà, si je commence par la société israélienne, je reprendrai une expression que Sylvain Sipel a citée, mais qui est traduite de l'hébreu. Autrefois, les Israéliens urinaient dans la piscine, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquaient pas trop les massacres ou les exactions qu'ils faisaient. Et maintenant, ils urinent au lieu du plongeoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tuer des Palestiniens, c'est excellent pour se faire élire. Je ne sais pas si vous avez vu ces images des soldats israéliens qui sont passés sur des monticules de terre à 70 mètres de la barrière de séparation à Gaza et qui tirent comme à la foire. Et les cris de joie qu'ils poussent quand ils arrivent à jambiser quelqu'un. À titre d'exemple, un ancien Premier ministre, il a été Premier ministre de l'Alliance anti-Netanyahou, et après il y a eu Yair Lapid et Netanyahou, donc je cite Naftali Bennett, pour se faire élire, a dit « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème ». Donc il y a véritablement quelque part, là-bas, un écroulement des valeurs morales. On en parlait tout à l'heure pour dire l'excession que représentait Breaking the Silence là-dessus. Et puis, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'Israël est né d'un déni, le déni du nettoyage ethnique prémédité de 1948, le déni des droits, de la mémoire, de l'histoire du peuple palestinien. Et Israël grandit, c'est là qu'on va passer sur la latitude de l'étranger, sur le fait qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire puisqu'ils ne sont jamais punis. Et je le dis comme professeur à la retraite, quoi. J'ai eu en fin de carrière quelques élèves qui ne connaissaient pas les limites. Et c'est terrible, c'est-à-dire qu'ils vont avancer, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle. Et s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite. Et Israël se comporte exactement comme un enfant qui n'a pas de limite, c'est-à-dire, puisque je peux tuer par des bombardements, je vais continuer. Puisque je peux tuer une grande journaliste de CNN et dire oh, c'est peut-être une erreur, mais que j'ai pas de sanction, je vais continuer. Puisque je peux détruire des maisons, des villages et mettre tout le monde à la rue, je vais continuer. Et puis les enfants, normalement, dans la plupart des sociétés, c'est sacré, on ne touche pas aux enfants. Moi, j'ai vu de mes yeux à Hébron un enfant de 13 ans se faire arrêter. La mère qui essayait d'intervenir, qui était piétinée par les soldats et tout. Après, les gens restant devant le bureau de police, mais bon, on sait ce qui va lui arriver. Pour un GDPR, il va prendre des années de prison. N'oublions pas que 850 000, mais ça là, on parlera bien mieux que moi, que 850 000 Palestiniens ont connu la prison. Ce qui est dramatique, c'est les enfants. C'est-à-dire que sans prendre à des très jeunes, sans prendre à des bébés, il n'y a plus de limite, ça, c'est quelque chose qui est permis. Souvent, on pense que sur l'emprisonnement des enfants, on pense que c'est des enfants de 16 ans, 17 ans qui sont presque majeurs, mais non. Maintenant, ils emprisonnent des tout petits, ils emprisonnent des enfants de 8 ans qui tuent des bébés alors qu'ils les tuent dans des bombardements, qui fassent comme à Gaza, dernièrement, pour avoir théoriquement un membre du djihad islamique qui ont fait exploser l'immeuble, il y a toutes les femmes et les enfants qui habitaient dans l'immeuble qui sont tués. Mais là, il s'agit d'assassinats sans froid. Donc, je crois qu'une société, quand elle commence à avoir le permis de tuer sans être puni, nous, en tant que juifs, on connaît cette histoire. Il y a en ce moment un film qui sort sur Rudolf Höss, gardien du camp d'Auschwitz, qui vivait tout à fait normalement à l'européenne, en aimant son chien, sa femme et ses enfants, et qui était par la fenêtre, il y avait quelques fumées qui arrivaient sur les horreurs dont il était le chef. Ils sont en train aujourd'hui de fabriquer ce genre de société, ils sont en train aujourd'hui de fabriquer ce genre de criminels. Et ce qui est terrible, c'est que la réponse d'Israël, ce sont des terroristes. Alors, je donne l'exemple sur Gaza, tous les gens qu'ils ont tués, il y avait des raisons. Alors nous, on a à l'UJF, peut-être certains d'entre vous le savent, depuis 8 ans, on aide les paysans de Gaza à vivre de leur récolte et à nourrir leur population. Parmi les 35 morts de la dernière tuerie à Gaza, il y a deux des paysans qu'on aidait, fils d'un grand dirigeant agricole de la région de Rousa, et immédiatement Israël a dit ce sont des membres du djihad islamique. Quand bien même ce seraient des membres du djihad islamique, il me semble que les exécutions extrajudiciaires, c'est interdit, mais en plus c'était un mensonge flagrant. Voilà, sur les enfants, je veux dire que l'Europe accepte ça, qu'elle ne dise rien, qu'elle continue de dire qu'Israël est un État juif et démocratique, que y compris les, je le disais aujourd'hui, ça date de ce matin, des accords de libre-échange entre les Émirats arabes unis et Israël, donc les pays féodaux, patriarcaux et esclavagistes du Golfe, nous des accords avec ça, que immédiatement quand il y a eu le 75e anniversaire de la Nakba, Ursula von der Leyen a prononcé un grand discours en disant 75e anniversaire d'une grande démocratie au Proche-Orient et tout. Ça fait des morts, ça fait des enfants morts, et c'est l'impunité qui fait que ça continue. Et l'impunité, c'est notre responsabilité.
Ursula, c'est la présidente de l'Union européenne.
C'est ça.
Je crois qu'elle est allemande. Et peut-être qu'elle a son langage que moi, mais il faudrait lui rappeler qu'on ne peut pas cacher les crimes du passé en cautionnant les crimes d'aujourd'hui.
En Allemagne, c'est terrible. Notre camarade Sophia Degg va en parler. Moi-même, j'étais à Berlin pour en parler. Savoir qu'à Berlin, ils ont interdit la célébration de la Nakba, alors qu'il y a 50 000 Palestiniens qui habitent à Berlin. Et L'Allemagne, elle a fait tout faux, évidemment, pendant la période nazie, mais elle a fait tout faux après. Je veux dire que le négociateur allemand qui négocie avec Israël l'indemnisation des victimes juives du nazisme, c'est Hans Globke, c'est l'auteur des lois raciales de Nuremberg, qui était le principal conseiller d'Adenauer. Et aujourd'hui, toute espèce de critique de la politique israélienne est devenue impossible en Allemagne, au point que notre association sœur en Allemagne, Jüdische Stimme, qui sont des juifs souvent d'origine israélienne, antisionistes et partisans du boycott, on leur a fermé le compte bancaire. Donc l'État allemand ferme le compte bancaire d'une association juive parce qu'elle est contre le sionisme et contre l'occupation. Ça en dit long quand même. C'est... Voilà.
Alors, oui, après ça, on va peut-être parler de ce rapport publié par l'association Défense for Children International Palestine. Je crois que c'est une association qui a d'ailleurs été déclarée terroriste parmi d'autres dont tu parlais tout à l'heure. Elle vient de publier un rapport qui s'appelle alors « L'arbitraire par défaut, les enfants palestiniens dans le système des tribunaux militaires israéliens ». Défense for Children a recueilli des attestations de 766 enfants palestiniens de Cisjordanie détenus par les forces israéliennes entre 2016 et 2022. Ces attestations montrent que les trois quarts d'entre eux ont souffert d'une forme de violence physique à la suite de leur arrestation et que 97% étaient interrogés sans la présence de leurs parents, tandis que les deux tiers n'étaient pas correctement informés de leurs droits. Tous ont été soumis aux droits militaires israéliens qui refusent les droits fondamentaux à la protection et aux garanties d'un procès équitable. Et ils ont été poursuivis dans le système des tribunaux militaires israéliens qui n'est ni indépendant ni impartial. La plupart des enfants sont arrêtés sur la base de soupçons, sans mandat d'arrestation. Les arrestations sont peu, sinon pas du tout surveillées par les dispositifs indépendants. Aucun des 766 enfants palestiniens ayant témoigné n'a mentionné un mandat d'arrestation fourni par les autorités israéliennes lors de leur arrestation. Alors Pierre, tu peux nous parler de cette justice militaire israélienne qui juge, condamne les Palestiniens, enfants, adultes, vieillards, femmes
Alors d'abord, c'est ça qui est fou, c'est que en Cisjordanie et à Jérusalem-Est vivent 2 700 000 Palestiniens et 750 000 colons. Les 2 700 000 Palestiniens dépendent de la justice militaire et 750 000 colons, qui habitent parfois à 5 mètres d'entre eux, par exemple à Hébron, dépendent de la justice civile. La justice militaire israélienne, elle s'affranchit absolument de tout ce qui peut représenter le droit, même dans un certain nombre d'États totalitaires. Et en particulier, elle se réserve le droit d'avoir ses preuves, de ne pas les fournir. Et en gros, c'est soit la personne qui est accusée plaide coupable, soit elle ne plaide pas coupable et la peine est doublée. Et donc la plupart du temps, elle plaide coupable, ce qui permet évidemment après aux propagandistes sionistes de dire, vous voyez, on a arrêté des terroristes et c'est bien ça. Alors, sur les enfants, vous pouvez voir ça en image dans le très très bon film d'Alexandre Adolphe, Derrière le front. Alors, le film est centré surtout sur la fantastique psychiatre palestinienne Sam Jaber, mais il y a des images et des témoignages sur les enfants. Il faut imaginer ce que ça veut dire, la détresse d'un enfant 13-14 ans qui est arrêté, qui est privé d'un seul coup, pour très longtemps, de la présence et de la protection de ses parents, qui ne peut absolument pas comprendre ni ce qu'on lui reproche, ni dans quelle main il est. Ce sont des mains, des valeurs et un monde qui lui est complètement étranger. Et ceux qui sortent de là sortent particulièrement traumatisés. Il faut savoir qu'en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, une énorme partie de la résistance, elle se fait par le soutien psychologique à tous ceux qui ont été traumatisés par ce genre d'arrestation, par des bombardements, par des morts dans leur famille, par des violences qu'ils ont vécues. Voilà, je veux dire, et c'est pas un hasard si l'association qui dénonce ça a été une des 6 associations terroristes pour Israël. C'était évidemment terroriste de faire savoir cette horreur-là. Je veux quand même dire que nous, juifs, on a quand même un souvenir sur la question des enfants. On a le souvenir, par exemple, qu'au moment de la rafle de Tel-Aviv, les nazis n'avaient même pas demandé qu'on prenne les enfants, c'est-à-dire Laval et Pierre Rousset, qui prennent cette décision, qui fera 3 500 morts de plus, que Il n'y a qu'à écouter Jean-Jacques Goldman, sa chanson sur Sartre, la façon dont on a anéanti des enfants sur leurs origines, leur identité, et voir que ça se passe là-bas, qu'on méprise totalement leur humanité et tout, ça a quelque chose pour nous de particulièrement obscène.
Voilà, donc je vais revenir sur ce communiqué de Défense of Children. Bien qu'Israël ait ratifié bon nombre de traités internationaux centraux sur les droits humains, en dépit de son obligation d'agir en conformité avec ces traités, les autorités israéliennes persistent à ignorer le droit international et à soumettre, dit Ayad Abkhtesh, le directeur financier de Defense of Children International Palestine. Le résultat est le refus systématique du droit à un procès équitable pour les enfants palestiniens détenus et poursuivis dans le système israélien de tribunaux militaires. Chaque année, l'armée israélienne emprisonne et poursuit entre 500 et 700 enfants palestiniens dans des tribunaux militaires qui manquent du minimum de garanties pour un procès équitable. Dès leur arrestation, les enfants palestiniens font l'objet de mauvais traitements et de tortures aux mains des forces israéliennes, bien que les normes internationales réaffirment que les civils, enfants inclus, ne doivent jamais être traduits devant des tribunaux militaires. Israël persiste à être le seul pays au monde qui poursuit automatiquement et systématiquement des enfants dans des tribunaux militaires. Et je dois ajouter aussi un témoignage. Là, ce n'était pas un enfant qui avait été arrêté, enfin qui avait été emprisonné. C'était dans la bande de Gaza il y a plus de 20 ans, dans le camp de réfugiés de Chati, et il y avait un petit garçon dont on m'avait signalé l'interpellation par la police. Il avait été accusé d'avoir jeté des pierres, il avait moins de 10 ans. Et quand ils sont venus le chercher, ils l'ont jeté dans la Jeep. Et quand je suis allée l'interviewer, moi, après, sa maman m'a montré deux choses. Dans le dos, il avait une espèce, à la hauteur du rein, il avait une espèce d'aubergine, couleur aubergine. C'était le résultat des coups de pied qui lui avaient été donnés dans la Jeep. Et le bout de ses doigts était légèrement brûlé. C'était aussi les brûlures de cigarettes qui lui avaient été infligées pour lui donner une bonne leçon afin qu'il ne jette plus des pierres sur les soldats, puisqu'il était accusé d'avoir jeté des pierres. Et cet enfant n'avait pas 10 ans. Et sa maman me disait qu'elle le surveillait la nuit et le jour pour voir si la nuit ne faisait pas pipi au lit pour signe de traumatisme ou autre. Et que surtout la journée, elle le surveillait parce qu'il était tellement en colère que dès qu'il entendait que l'armée était dans le camp, il sortait pour cette fois aller jeter des pierres. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le camp de Chati, c'est un camp qui est bâti sur la plage et il y a beaucoup de sable et très peu de pierres. Donc c'était un mensonge des soldats, alors qu'on n'avait jamais jeté des pierres. On revient sur une petite pause musicale et ensuite nous parlerons de Salah Hamouri pour développer un petit peu tout ce qui est arrivé à Salah et tout ce que disent aujourd'hui ceux qui ne veulent pas lui laisser la parole. Peut-être on envoie la musique toujours sur Radio Galère 88.4 avec l'émission Une heure en Palestine. C'était, pour les deux chansons, c'était Mohamed Assaf, ce jeune chanteur de Gaza qui, il y a quelques années, avait gagné l'émission Arabe Idol après avoir réussi à traverser toutes les pavés avec moult de péripéties pour arriver à pouvoir chanter et à gagner ce concours.
Voir le film Chanteur de Gaza.
Tout à fait, je l'avais oublié ce film. Alors écoutez, on va peut-être reparler de justement cette conférence samedi. Et parler plus particulièrement de Salah Hamouri. Pierre, toi, tu le connais aussi. Salah a été arrêté dès son plus jeune âge pour une accusation de collage d'affiches, me semble-t-il.
C'est pire, il se serait arrêté.
Ah non, ça c'était avant. La première arrestation, c'était avant. La deuxième,
il se serait arrêté devant la maison d'un, entre guillemets, grand rabbin. Ce qui était la preuve, un, qu'il était membre du FPLP, et deux, qu'il voulait assassiner le grand rabbin en question. Alors, je veux dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, comme ils sont soumis à la justice militaire, la justice n'a, entre guillemets, n'a aucune raison de fournir la moindre preuve de quoi que ce soit. Et donc, le deal était simple, soit ça a plaidé coupable, et il a pris 7 ans, soit il ne plaidait pas coupable, et il prendrait 14 ans. Mais de toute façon, il n'y avait aucune preuve fournie, aucun acte d'accusation de quoi que ce soit.
Alors oui, ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il est arrêté, il a 20 ans, il est étudiant en sociologie à l'université de Bethléem, et il va d'abord passer 3 ans en détention administrative avec des procès, des audiences qui sont repoussées, je ne sais plus combien de dizaines d'audiences repoussées, parce que le dossier était vide. Et c'est au bout de 3 ans que son avocate, l'avocate israélienne Léa Tzemel, est approché par le procureur militaire du tribunal militaire d'Ofer et qui lui propose ce qu'ils appellent le plea bargain, qui est une procédure qui n'existe pas en français. Un plaidé coupable. Alors, je suis allée chercher un petit peu en droit ce que c'était, et j'ai trouvé ce texte qui dit « Les critiques du système soulignent que le marchandage peut faire jouer une forte pression sur l'accusé, qui peut être réduit à plaider la culpabilité pour des délits qu'il n'a pas commis, les délits ou les crimes d'ailleurs. Dans cette procédure, tout dépend des capacités de négociation, ce qui donne un avantage au dossier dans lequel de bons et donc coûteux avocats sont impliqués. De plus, le système encourage les procureurs à choisir les chefs d'accusation les plus graves au début du cas pour se donner la marge de la marge de négociation. Finalement, les juristes, surtout des juridictions de loi civile, trouve souvent ce principe contraire au but de la loi d'associer une action à une pénalité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour Salah Hamouri, puisqu'il n'y a jamais eu l'ombre d'une preuve dans son dossier.
Il n'y a jamais eu l'ombre d'une preuve. Il faut rajouter la détention administrative, qui est un héritage du colonialisme britannique et qui permet déjà d'emprisonner absolument sans jugement et sans aucune accusation quelqu'un pendant 6 mois, comme ces 6 mois renouvelables. Ben voilà, pour ça, là, ça a été renouvelé de nombreuses fois, et aujourd'hui, il en parlera sûrement mieux que nous, samedi, de très nombreux Palestiniens qui sont en prison sont en détention administrative. Je voulais dire, parce que ça me dérange quand même, deux ou trois mots du grand rabbin que Salah serait censé avoir voulu tuer. Il s'appelait parce qu'il est mort, Ovadia Youssef.
Il est mort de mort naturelle.
Il est mort de mort naturelle, il est venu à 93 ans. Oh, je cite juste deux de ses déclarations qui disent un petit peu qui il était. Il dit, de mémoire, ce n'est pas exactement la phrase, mais il dit en gros que les 6 millions de juifs que les nazis ont assassinés étaient la réincarnation d'un juif qui avait péché, ce qui est quand même une sacrée insulte à nos morts. Et puis, au moment de la catastrophe de New Orleans, il a dit « Là-bas, ce sont des nègres. Les nègres ont-ils inventé la Torah ?» Dieu les a punis parce qu'ils n'avaient pas de religion. Ce qui est quand même, dans le genre universalisme et humanisme, quelque chose de fort. Donc voilà, c'est simplement pour dire qu'en Israël, avoir ce genre de déclaration incroyable, ça vous rend quand même respectable, les grands rabbins ou grands quelque chose, quoi.
Oui, disons que ce Christ individu, ici, aurait été condamné pour ses propos à la fois antisémites et racistes.
Quoique M. Éric Zemmour, quand il dit que Pétain avait protégé les Juifs français, il n'a pas été en taule pour ça, et on a dit ça mériterait aussi, mais enfin bon.
Oui, et non seulement il n'a pas été en taule, mais il a quand même eu
7% des voix et 53% des voix des électeurs français en Israël au premier tour des présidentielles.
Oui, auquel il faut ajouter plus de 10% pour Marine Le Pen, ce qui fait que ces différents individus ont voté très majoritairement pour l'extrême droite.
Normal, ce sont des colons.
Alors, revenons à Salah. Salah, il est libéré donc, en 2011, quelques jours avant la fin de sa peine, lors d'un échange de prisonniers avec le soldat Chahid. Vous vous rappelez ce prisonnier dont on soldat, c'était un soldat.
Il parlait pas français,
c'était sa grand-mère qui avait dû avoir la nationalité française. Voilà. Et il a repris des études en prison, il reprend des études encore de droit et il devient avocat. Et il travaille pour l'association Adamir pour la défense des prisonniers politiques, des prisonniers palestiniens, prisonniers politiques essentiellement. Juste pour rappeler qu'il y a actuellement plus de 1000 Palestiniens en détention administrative dans les prisons israéliennes. Et, autre rappel juridique, la déportation de prisonniers en particulier hors de leur territoire, dans le territoire de l'occupant, est une violation du droit international. Donc en 2014, Salah épouse Elsa Lefort, qui a été une des plus actives membres de son comité de soutien pendant qu'elle était emprisonnée, alors qu'elle ne le connaissait pas. Et Elsa sera interdite de séjour à Jérusalem en 2016, enceinte de plusieurs mois après les vacances de Noël, elle rentre dans son foyer à Jérusalem et à l'aéroport, bien qu'elle ait eu un contrat avec l'ambassade, avec le consulat de France, le consulat général de France à Jérusalem, qui est en rang d'ambassade. Elle est interdite de séjour, elle est emprisonnée pendant trois jours, elle est détenue pendant trois jours. Et elle est renvoyée en France avec interdiction de revenir en Palestine. Donc Salah et Elsa sont séparés. Les enfants ne naîtront pas en Palestine, donc ils n'auront pas de statut de résident. Et en 2017, Salah est à nouveau arrêté. Pas de dossier, pas de preuve. Les services secrets communiquent sur un prétendu engagement auprès du FLP, mais encore une fois, le dossier est vide. Et Salah ne sera pas jugé, mais il sera libéré après 17 mois de détention administrative. En 2020, il échappe à une tentative d'enlèvement par les services israéliens. Son statut de résident à Jérusalem est révoqué par l'occupation, ce qui veut dire qu'il ne peut plus sortir de chez lui, il ne peut plus aller travailler. Bien évidemment, il ne peut surtout pas aller rencontrer les prisonniers palestiniens. Et il n'est plus autorisé à vivre à Jérusalem auprès de son père et sa mère et de ses frères et sœurs qui y vivent. En 2022, il est à nouveau arrêté, à nouveau sans jugement, avec un dossier vide. Et il est encore détenu pendant 9 mois et déporté le 18 décembre 2022. C'est-à-dire qu'entre le moment, par exemple, pour citer le jour de la naissance de sa petite-fille et son expulsion, eh bien, disons qu'il n'a quasiment pas pu voir son enfant. Disons aussi qu'il se connaissait à travers les réseaux sociaux, à travers Zoom, WhatsApp et autres possibilités de converser à distance. C'est Salah que nous allons accueillir samedi soir. Je vois que nous sommes au terme de l'émission. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi, samedi soir à 17h à la Bourse du Travail, boulevard Charles-Nélec. Et on vous dit surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle heure à passer en Palestine sur l'antenne de Radio Galère.